Décryptage. Clémentine Pavlotsky.
Bonsoir à tous. Bienvenue dans Décryptage, consacré ce soir aux législatives de dimanche en Irak. Le scrutin doit permettre de renouveler le Parlement avec l'élection de 329 députés. Ces législatives anticipées étaient une promesse du pouvoir pour répondre au mouvement de contestation populaire d'octobre 2019. À l'époque, des dizaines de milliers de personnes s'étaient soulevées pour réclamer la chute du régime. Les protestataires dénonçaient l'incompétence du gouvernement, la corruption ou encore le chômage. 2 ans après, quelles sont donc les attentes et préoccupations des électeurs? On en parle pendant 20 minutes avec nos invités. Bonsoir Adèle Bakawan.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous dirigez le Centre français de recherche sur l'Irak et vous êtes l'auteur de L'Irak, un siècle de faillite de 1921 à nos jours, paru aux éditions Talendier. Alors on va d'abord retrouver notre envoyé spécial à Bagdad, Muriel Paradon, pour planter un petit peu le décor de ces élections. Et on décryptera tout cela ensuite avec vous. Muriel Paradon, d'abord, quelle est l'ambiance générale dans la capitale? Dans quelles conditions finalement se déroule la campagne électorale?
Mais écoutez, il n'y a pas d'ambiance justement. Le seul signe visible d'une campagne électorale, ce sont les affiches des candidats qui peuplent les rues de Bagdad, le long des routes ou sur les bâtiments, des affiches effectivement d'hommes et de femmes très différents qui se présentent pour un siège au Parlement. Mais il n'y a pas de meeting, de rassemblement électoral, de distribution de tracts. Cette campagne n'est absolument pas vivante dans la rue. Ce que l'on voit en revanche très visiblement, c'est un renforcement de la sécurité à l'approche du scrutin, des policiers lourdement armés qui patrouillent, des véhicules blindés postés au carrefour. L'Irak reste un pays très instable, qui a vécu plusieurs guerres, la dernière contre l'État islamique. Il y a des attentats encore régulièrement et c'est une crainte lors de ce scrutin, crainte qu'il y ait des violences.
Et alors, on a vu des centaines de manifestants se rassembler vendredi dernier sur la place Tahrir pour justement le 2e anniversaire de la révolution de 2019. Est-ce que ces manifestants sont toujours sur place? Est-ce que la mobilisation se poursuit?
Non, pas du tout. En fait, vendredi dernier, c'était exceptionnel. C'était pour marquer effectivement le 2e anniversaire de la Révolution. Les manifestants étaient peu nombreux. Aujourd'hui, sur l'emblématique place Tahrir à Bagdad, où ils avaient l'habitude de se réunir par milliers, il y a des policiers, c'est pour vous dire. Seuls dans certains endroits, comme à Nassiriya, une ville déshéritée du sud de l'Irak, qui est un berceau de la Révolution, des protestations ont encore lieu de temps en temps. Mais sinon, les jeunes ont quitté la rue depuis longtemps. Pourquoi? Parce que le mouvement a été largement réprimé, 600 jeunes ont été tués, des milliers d'autres emprisonnés et les assassinats ciblés de militants ont continué jusqu'à récemment. Donc ces jeunes ont peur évidemment et aussi ils estiment que leurs demandes n'ont absolument pas été entendues.
Et globalement, Muriel, quel est l'état d'esprit des gens que vous avez pu rencontrer à l'approche de ce scrutin ?
Alors, si l'on parle des jeunes révolutionnaires rencontrés à Bagdad, c'est clair qu'ils n'iront pas voter. Ils ont manifesté contre la corruption, la violence, le manque de perspectives économiques, et ils pensent que ces élections anticipées ne changeront rien, car ce seront toujours les mêmes qui resteront au pouvoir. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que la loi électorale a changé. On ne vote plus pour des listes, des partis, mais des personnes. C'est censé encourager les candidatures indépendantes. Mais beaucoup n'y croient pas, à cause de la corruption, encore une fois, des intimidations. Les élites risquent de se reproduire et donc ces jeunes-là n'iront pas voter. D'autres habitants que nous avons pu rencontrer à Bagdad se disent majoritairement indécis, un peu perdus dans leur choix pour des candidats qu'ils ne connaissent pas vraiment et aussi parce qu'ils sont englués dans leurs problèmes au quotidien. Quand vous allez dans des quartiers déshérités de Bagdad où les égouts débordent, l'électricité n'arrive que 2 heures par jour, les jeunes traînent dans la rue parce qu'ils n'ont pas de travail, il y a vraiment un sentiment de désespoir qui pourrait se traduire par une abstention importante dans les urnes ce dimanche.
Merci beaucoup Muriel Paradon, envoyée spéciale de RFI à Bagdad. Alors une abstention importante attendue dans les urnes dimanche. Et Muriel Paradon le disait, une campagne électorale très peu visible. Adèle Bakawan, comment est-ce que vous expliquez cette absence de campagne électorale? Est-ce que c'est lié au contexte sécuritaire?
Le contexte sécuritaire, bien évidemment, la stabilité du pays, la faillite économique. Mais avant tout ça, c'est la rupture. Moi, bien évidemment, on peut parler de l'abstention, on peut parler de la dépolitisation, mais pour le cas irakien, je parlerai plutôt de la rupture. Pourquoi la rupture? Parce que tout simplement, en 2018, les vrais chiffres, le taux de participation n'a pas dépassé les 17%. Et les dinosaures irakiens, de la politique irakienne, toutes ces élites qui sont au pouvoir depuis 2003, ils ont mis en place tous les mécanismes pour augmenter ce taux pour arriver à 28-29%. Aujourd'hui, entre 2018 et 2021, il y a eu un grand mouvement de contestation. Les leaders de ce mouvement de contestation ont décidé collectivement à boycotter ces élections. L'état de cet État est pire qu'en 2018. C'est pourquoi je pense qu'il y a une vraie rupture structurelle entre la société et ses élites.
Mais ces élections, elles étaient pourtant justement présentées par le pouvoir irakien comme une réponse finalement à ces manifestations de 2019. Ce n'est pas ce qu'attendaient les Irakiens ?
Si, tout à fait, tout à fait. Au départ, une des demandes du mouvement de contestation, c'était la réforme de la loi électorale. Mais parce que ces élites au pouvoir sont tellement intelligentes, ils ont pris en otage cet État irakien, ces institutions, elles ont parfaitement réussi à dévier cette réforme dans leur propre intérêt. Aujourd'hui, si vous n'appartenez pas à un macro parti politique, vous avez peu de chances d'accéder à l'Assemblée nationale. En 2018, les micro-partis avec le système électoral avaient la possibilité d'accéder à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, si vous n'avez pas un grand dinosaure politique derrière vous, il est peu probable que vous arriviez à l'Assemblée nationale.
Alors justement, Adel Bakawan, aujourd'hui, quelles sont les principales forces politiques en présence dans ces élections ? Et est-ce que ce sont les mêmes qu'il y a 2 ans au moment de cette révolte, ce soulèvement populaire ?
Tout à fait. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Les forces sont là. Le champ politique, les rapports de force à l'intérieur du champ politique irakien se stabilisent. Dans la communauté chiite, c'est toujours Sadr, c'est toujours Adel Hamdi, c'est toujours Nouri Maliki et Amar al-Hakim, bien évidemment, avec Haider al-Abadi. Dans le champ politique sunnite, c'est toujours Halboussi et Khanjar. Dans le champ politique kurde, c'est toujours Barzani et Talabani.
Je voudrais qu'on revienne également sur la situation sécuritaire. Aujourd'hui, quelle est-elle en Irak ?
Écoutez, aujourd'hui, en 2021, l'Irak est beaucoup plus menacé qu'en 2018. Pourquoi ? Parce qu'il y a un retour en force de l'organisation d'État islamique. Les attentats tous les jours, même au cœur de Bagdad. Numéro 1. Numéro 2, vous avez une offensive turque dans le nord avec l'installation de 33 bases militaires dans le nord. Et vous avez même la main militaire de la Turquie arrive même au cœur de l'Irak, c'est-à-dire à Sinjar, n'est-ce pas ? Ça, c'est la deuxième menace qui menace vraiment la sécurité, la stabilité et la sécurité irakienne. Troisième menace, c'est l'installation du PKK. Le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan de Turquie ou de la Turquie, installé militairement dans le territoire irakien et sur le territoire. Quatrième source de menace, ce sont les ingérences de la République islamique de l'Iran. Cinquième, c'est la montée en puissance et le déploiement massif des organisations miliciennes. Autrement dit, l'Irak est plus jamais menacé par des guerres de toutes les natures.
Et est-ce que justement ce climat d'instabilité, d'insécurité, il a pu dissuader certains candidats de se présenter aux législatives ?
Oui, tout à fait, bien absolument. Un candidat qui n'a pas la caution d'un pays du système régional, par exemple la Turquie, l'Arabie Saoudite ou l'Iran, déjà menacé par définition. Un candidat qui ne dispose pas d'un capital social considérable, également menacé. Un candidat qui ne passe pas par le filtre des organisations miliciennes, lui aussi également menacé. Bien évidemment, dans ces conditions de déplorables sécuritairement, les candidats peuvent désister.
Alors, je voudrais qu'on écoute justement le témoignage de Hannah Edouard. Elle est cofondatrice du réseau des femmes irakiennes. Et c'est justement à cause de l'insécurité qu'elle n'ira pas voter dimanche.
You speak about, you know, security.
Concernant la sécurité, c'était une des demandes des jeunes qui manifestaient pour des élections anticipées, mais à condition qu'il y ait un environnement propice à la sécurité pour ces élections. Ce n'est pas seulement pouvoir sortir dans la rue tranquillement, c'est la sécurité pour les candidats de pouvoir faire une campagne électorale librement. La sécurité pour les gens de pouvoir décider pour qui ils vont voter. La sécurité, c'est ne pas être harcelé par les milices qui vous menacent. Allez voir sur les réseaux sociaux. C'est rempli de haine, de menaces, d'attaques contre les gens.
Adèle Bakawan, est-ce que vous pensez que le scrutin de dimanche pourra se tenir sur toute l'étendue du territoire irakien ?
Oui, absolument. Absolument. À ce niveau-là, il n'y aura pas de problème. Il y a une certaine garantie. Il y aura des élections sur la totalité du territoire national. Mais en même temps, il y a une rupture massive. Nous, selon notre dernière enquête, 89% des Irakiens n'iront pas voter.
Des dizaines d'opposants ont tout de même été enlevés ou assassinés ces derniers mois, ces dernières années. Ces violences, à qui est-ce qu'on peut les attribuer ? Est-ce qu'elles ne risquent pas quand même de se reproduire au moment du scrutin, au moment du vote ?
À l'État, je refuse catégoriquement et les données factuelles à l'appui de considérer, par exemple, un État profond ou un État dans l'État ou la troisième force qui massacre les manifestants, les activistes, les journalistes, les acteurs de la société civile. Non, celui qui assassine tous ces acteurs-là, toutes ces catégories d'acteurs, c'est l'État. Et cet État n'est que l'État milice irakien. Je refuse également de qualifier, par exemple, cet État comme État-nation qui n'existe plus depuis 2003, ou un État national, ou l'État des citoyens. En Irak, vous n'avez pas un État, vous avez un État milice.
Le fait que le mouvement d'octobre de contestation populaire d'octobre 2019 ne soit aujourd'hui représenté par aucun parti dans ces législatives, est-ce que ça ne signe pas d'emblée l'échec finalement de ce scrutin ?
Est-ce que vous avez, à l'échelle planétaire, vous avez déjà vécu une expérience, observé une expérience électorale où les candidats, les partis politiques négocient la répartition des sièges à l'Assemblée nationale avant le vote ? Personnellement, je n'ai jamais remarqué ce processus nulle part sur cette planète. Or, en Irak, depuis 3 semaines, les acteurs politiques dans les coulisses, ils sont en train de négocier, même avant les élections de dimanche, la répartition des nombres de sièges par parti politique, par coalition, par force politique. Ils n'arrivent pas à ce jour-là, à cette heure-là, à cette minute-là, arriver à un consensus sur la répartition de ces sièges. Si je voulais dire non, il n'y a aucune confiance en ces élections. Et ces élections-là ne vaut pas dire, absolument pas dire, la présence de la démocratie. Alors, la démocratie est une chose. Et les élections à une autre.
Et on comprend bien que, effectivement, ces entretiens en sous-main pour peut-être essayer de répartir avant le vote ont pu, les sièges au Parlement ont pu alimenter la défiance de la population. Mais comment est-ce que vous expliquez que finalement le système politique irakien soit si dur à réformer ?
Écoutez, en 2003, lorsque les Américains arrivent à Bagdad, le 9 avril 2003, ils mettent en place un système politique basé sur 2 principes. Le premier, c'est la systématisation de la corruption. La corruption se systématise et se généralise un peu partout. Et ensuite, la milicisation de ce système. À ce jour-là, le système est tellement complexe, il vous permet de contester, de manifester, de critiquer, mais en même temps absorber et se reproduire d'une manière permanente. Aujourd'hui, si vous voulez réformer ce système-là, il faut ou bien une révolution, ce qui est peu probable, ou une ingérence extérieure, ce qui est encore peu probable après l'occupation d'Irak par les États-Unis d'Amérique.
Ça veut dire donc, si je vous suis bien, que chaque parti politique est en lien avec des milices qui agissent sur la sécurité des territoires irakiens ?
À ce jour-là, vous n'allez pas trouver un parti politique représenté à l'Assemblée nationale sans avoir une branche milicienne. Autrement dit, le parti politique n'est pas uniquement un parti politique, mais aussi une organisation armée, des entreprises économiques, des structures sociales, ce que j'appelle la partisanisation de la société. Ils sont dans ce processus de la partisanisation de la société. Ou bien, vous faites partie d'un parti politique qui a des branches, une branche armée et des grandes entreprises, et ils ont le monopole sur la totalité de la société, ou bien vous ne pouvez pas avoir une place, une perspective au sein de cette société irakienne.
Vous parliez tout à l'heure, Adel Bakawan, des États-Unis. Les États-Unis, on le sait, vont se retirer d'Irak à la fin de l'année 2021. Est-ce que le pays peut s'effondrer comme on l'a vu, par exemple, en Afghanistan ?
Écoutez, l'Irak, en tant qu'État et en soi, ne dispose pas des infrastructures pour fonctionner en tant qu'institution souveraine. Si cet État fonctionne de 2003 à ce jour, c'est parce qu'il y a eu et il y a encore une sorte de la cogestion, je parle de la cogestion américano-iranienne. Une fois cette cogestion, une fois on passe de cette cogestion à la rupture, à la confrontation ou au retrait, par exemple, un de ces deux partenaires de cette cogestion-là, la grande hypothèse, c'est que cet État irakien ne pourra pas durer et rester durablement en place en tant qu'État.
Très concrètement, une fois que les 329 députés seront élus, quelle sera la suite des événements ? Qu'est-ce qui va se passer ensuite ?
Le vide, tout d'abord. Pourquoi ? Ce qui fait peur aux pays du système régional et aux pays du système international, dont la France, les États-Unis d'Amérique. Lundi matin, ils vont annoncer 24 heures plus tard le résultat des élections. De l'annonce de ces résultats jusqu'à la formation du gouvernement irakien, il faut calculer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour ne pas dire au moins un an et demi. Pendant ce temps-là, c'est le vide total. Donc, qui va remplir ce vide, hein? Comment un gouvernement aussi faible comme celui de Kazemi pourra gérer ce vide politique, ce vide étatique, ce vide gouvernemental? Tout ce que j'espère, c'est que les Irakiens acceptent, les différentes forces acceptent les résultats de ces élections pour ne pas glisser dans une guerre civile.
Oui, justement, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'on n'a pas là, finalement, tous les facteurs réunis pour que la mobilisation de 2019 renaisse un peu de ses cendres, pardon ? Parce qu'il faut quand même rappeler que 40% aujourd'hui des jeunes Irakiens sont au chômage. Il y a ce contexte sécuritaire que vous évoquez, il y a toute cette faillite politique.
Et dans une province comme Nasiriyah, le berceau de ce mouvement de contestation, le chômage arrive à 75%. 75% des jeunes sans emploi et sans perspective. Toutes les conditions objectives qui ont élaboré la naissance de ce mouvement de contestation sont encore là. C'est pourquoi mon hypothèse, il est fort probable qu'après les élections irakiennes de ce dimanche, le mouvement revienne en force.
Si je vous comprends bien, aujourd'hui, rien ne nous permet d'être optimiste par rapport à l'avenir de l'Irak.
Écoutez, tous les scénarios envisageables, calculés et calculables par les différentes capitales des pays du système régional et des pays du système international nous conduisent vers un drame irakien. Le seul scénario qui peut être relativement optimiste, c'est l'organisation d'une grande conférence à l'intérieur de l'Irak, pour que les Irakiens puissent se parler entre eux et non pas avec les autres.
Merci beaucoup Adel Bakawan, c'était le décryptage du jour. Je rappelle que vous dirigez le Centre français de recherche sur l'Irak et vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « L'Irak, un siècle de faillite de 1921 à nos jours », ouvrage paru aux éditions Talendier. Un grand merci également à Hélène Avril à la réalisation et à Éléonore Krenik qui m'a aidé à préparer cette émission. Décryptage revient lundi à 17h10, temps universel. Très belle soirée sur RFI.
Priorité santé, Caroline Paré.
Et nous nous retrouvons toujours à Marseille pour les actualités du Pharo, pour parler infectiologie et maladies émergentes avec trois spécialistes de santé publique tropicale.
Vos questions, vos réactions sur la page Facebook de l'émission ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.